Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment prévenir les conflits entre bailleurs et locataires? On en parle aujourd'hui dans l'émission Okapi Service avec Maître Eric Vouvou, avocat au barreau du Congo central. Maître Eric, bonjour. Maître Eric, vous êtes en ligne, bonjour. Bien. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Nous allons parler des conflits entre bailleurs et locataires, comment les gérer. Et vous avez des questions et préoccupations, des témoignages, appelez-nous au 099-706-9941. 099-706-9941. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de la campagne d'enregistrement des patients souffrant des fentes labiales et fentes palatines, appelées communément bec des lièvres. Parce que très bientôt, il y aura des interventions chirurgicales gratuites organisées par Operation Smile en collaboration avec la fondation Vodacom. Pour participer à ce magazine de la vie au quotidien, le standard est déjà ouvert. Composez le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net et faites-nous parvenir vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Tati Mafoukou assure la coordination et la réalisation. Pierre Diassinois à la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bien, encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore, chers auditeurs. Merci de votre fidélité. Bien, aujourd'hui, on va s'intéresser au conflit entre bailleurs et locataires. Aïe, 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 souvent ça chauffe entre les bailleurs et les locataires. Augmentation ou impayé des loyers, entretien du logement, restitution du dépôt des garanties et autres. Voilà souvent les problèmes qui divisent les bailleurs et locataires. Parfois, régler le problème peut s'avérer compliqué, en particulier si les dialogues sont rompus. Parfois, il n'y a plus possibilité de dialoguer. Alors, qu'y faire lorsque les relations ne sont plus au beau fixe entre un locataire et son propriétaire? Eh bien, nous allons en savoir plus aujourd'hui. Vous avez des témoignages, ça chauffe entre vous et votre bailleur ou votre locataire. Appelez-nous pour témoigner dans cette émission. Maître Eric Vouvou, vous êtes avocat au barreau du Congo central. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans cette émission. La première question est de savoir pourquoi il y a souvent des conflits entre bailleurs et locataires.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. La raison d'être des conflits entre locataires et bailleurs, c'est une raison d'abord liée à la nature humaine elle-même. Dans toute communauté où il y a des hommes, les conflits ne manquent pas suite à des divergences de points de vue, à des divergences d'éducation, à des divergences de méthodes, à des divergences d'approche, de sens, de compréhension. Donc c'est d'abord lié à la nature humaine elle-même, ces conflits, à la nature humaine elle-même. Et ensuite, c'est lié à l'ignorance de droits et des obligations par chacune des parties prenantes.
Bien, c'est lié à la nature humaine et puis à l'ignorance des droits et des obligations des uns et des autres. Alors souvent, ça tourne autour de soit des problèmes du genre le bailleur a décidé de revoir à la hausse le loyer. Souvent, en début d'année, voilà, il décide bon, désormais, vous ne payez plus 100 dollars, vous payez 120 ou 130 dollars et le locataire n'est pas d'accord. Alors, par rapport à l'augmentation du loyer, comment ça devrait se faire concrètement?
En fait, le bail, c'est un contrat. Et comme tout contrat, il est régi par le principe de l'autonomie des volontés des parties contractantes. Et s'il est vrai que les bailleurs peuvent augmenter les loyers, il est d'autant plus vrai que cela doit rester strictement dans les cadres contractuels. Donc le contrat doit avoir prédéfini à l'avance les règles de conduite entre parties. C'est comme le tableau de bord, c'est comme le plan de vol pour les locataires et les bailleurs. Le contrat doit avoir défini à l'avance la possibilité de réviser les loyers dans le sens de la hausse ou même dans le sens de la baisse. On peut même prévoir la périodicité, on peut même prévoir les conditions de pouvoir réviser les loyers et les modalités de cette nouvelle révision par rapport à un avenant, par rapport à une certaine quotité qu'il ne faut pas dépasser. Donc tout doit être régi par le contrat. Donc en un mot, le bailleur peut avoir le droit de revoir les loyers à la hausse, mais en restant dans les cadres stricts de ce qui a été convenu lors de la conclusion du bail entre lui et le preneur.
Bien. Est-ce que pour revoir les loyers, il est obligé d'avoir des discussions, des échanges avec le locataire, ou bien il peut décider un bon matin, à cause de la vie chère, tout ça, et la dépréciation de la monnaie, etc. Je décide unilatéralement de revoir à la hausse le loyer.
Non, toute clause contractuelle relative au bail se négocie. Elle se négocie. Le bailleur, peut arriver à constater la dépréciation monétaire, la perte du pouvoir d'achat par rapport au loyer initialement convenu. Il ne doit pas décider comme le seul maître à bord, parce qu'il y a un contrat qui met en présence deux parties, lui et le preneur. Donc il ne va pas imposer sa volonté de manière unilatérale au preneur. Il doit plutôt en faire part au preneur et négocier, recevoir en retour ses observations, ses contre-propositions, jusqu'à tomber finalement d'accord sur le modus vivendi, la façon de faire. Le bailleur ne peut pas se réveiller un bon matin, il impose sa volonté au locataire. Ce n'est pas orthodoxe, parce que le contrat met en présence deux personnes. Et nous avons dit en amont, nous avons parlé du principe de l'autonomie des volontés. Il faut que le preneur ou locataire accepte de s'engager avec cette nouvelle formule, avec ces nouveaux loyers. S'il n'accepte pas, les bailleurs ne peuvent pas s'imposer.
Voilà, il ne peut pas s'imposer, mais souvent on dit pour revoir à la hausse le loyer, il faut qu'il y ait par exemple une valeur ajoutée, soit il a entrepris des travaux d'agrandissement ou d'embellissement, je ne sais pas, d'amélioration du bien loué.
Oui, les travaux des remises en état du lieu loué peuvent occasionner une plus-value et avoir des répercussions sur le loyer qui peut aller dans le sens de la hausse. Il y a plusieurs paramètres qui peuvent amener les parties à revoir de commun accord le montant du loyer. Nous l'avons déjà effleuré, à vous et moi d'ailleurs, la dépréciation monétaire, la perte du pouvoir d'achat, plus-value sur le bien loué. C'est pas exhaustif ce que nous citons là. Donc, dans la vie courante, il y a plusieurs aléas qui peuvent surgir dans un cas ou dans un autre, qui peuvent amener les parties à un contrat de bail à revoir à la hausse ou même à la baisse, hein, c'est pas interdit, ou même à la baisse la hauteur du loyer.
Bien, et il peut arriver aussi que le locataire soit dans l'incapacité de payer. Il payait très bien le loyer, mais à un certain moment, suite à certaines difficultés, il ne sait plus payer comme avant. Alors, il est tout le temps stressé le 5 lorsque le bailleur il voit le coup de fil du bailleur, il est sous stress permanent.
Exactement, exactement. Dans notre société, être locataire, c'est être sujet à des stress permanents, surtout lorsqu'on n'a pas un bailleur respectueux de ses droits et de ses obligations. C'est toujours un stress permanent parce que à tout moment, à tout bout de champ, il peut surgir, il peut débarquer chez vous. Il y en a même qui outrépasse les seuils du tolérable. Il vient chez vous parce que c'est sa maison, il entre comme il veut, il fait du tapage, il vous gueule en présence de vos enfants et tout et tout. Alors qu'il y a des restrictions, même si on est propriétaire d'une maison mise en bail, il y a des restrictions. Dès lors que vous avez mis l'immeuble en bail, vous ne pouvez plus y aller, y accéder comme vous voulez, comme si c'était chez vous, effectivement, comme si vous en étiez l'occupant. C'est un stress permanent et c'est comme ça que il faut que les parties à un contrat de bail puissent déjà définir dans un contrat, dans un écrit, c'est à quoi ils s'engagent, la manière dont ils vont devoir procéder pendant le moment où ils vont cheminer ensemble. Parce que bon, ça peut arriver à tout le monde hein, d'être un peu en perte de vitesse et de ne pas pouvoir payer son loyer ponctuellement au moment M. Mais tout cela doit être géré et réglé par des hommes, par des hommes et non par des automates à qui il serait loisible de se comporter comme il voudrait parce que les locataires n'a pas payé le loyer ponctuellement. Et le locataire, par contre, aussi doit faire preuve de bonne foi. N'est pas profité de certaines toutes petites situations de déséquilibre financier pour mettre un caillou dans le moteur et renvoyer les bailleurs comme un chien puant. Donc, il faut que de part et d'autre qu'il y ait, comment dirais-je, bonne foi. Voilà, une bonne foi de part et d'autre.
Bonne foi. On va accueillir Baudouin de Kasumbalesa. Nous parlons des conflits entre bailleurs et locataires. Comment les prévenir ou comment les gérer? Baudouin, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à notre invité et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Et merci aussi de m'avoir associé une fois de plus à ces débats beaucoup plus pertinents et très importants.
Bon, dites-nous, là-bas à Kasumbalesa, comment ça se passe hein?
En tout cas, c'est un problème qui n'est pas une personne, hein. D'abord, personnellement, je peux vous donner un témoignage. Je pense dans les années 2015-16, comme ça, j'étais aussi locataire pendant ces temps-là. Mais qu'est-ce qui avait fait afin que je puisse rompre le contrat avec ma bailleresse? C'était la hausse vraiment inattendue du taux de dollar à l'époque-là. On était passé d'un taux moins élevé à un taux plus élevé, alors je ne pouvais pas supporter ces taux là-bas par rapport à ce que j'ai touché comme salaire. Faire face à ce que j'étais en train de payer, là, en tout cas, ça m'avait mis dans des difficultés. Alors, j'étais obligé, comme j'avais une petite parcelle là, de bricoler pour ne fût-ce que construire quelque chose afin d'échapper à ces problématiques.
D'aller vous installer chez vous.
Oui, oui.
Le bien loué, c'était une maison, chambre-salon, deux chambres, c'était oui. Quelle capacité?
Une maison de trois chambres, salon, et une chambre à coucher pour les parents et une autre pour les enfants, en quelque sorte, hein.
Et les loyers étaient à combien et puis il a été revu à combien?
Les loyers dans les taux du dollar étaient à 35 dollars comme toujours. Mais le problème c'était parce qu'on les payait en dollars vraiment exorbitantes. On était passé de 90 je pense à 120. De 90 000 francs à 100 dollars à 120 000 francs congolais. Donc il y avait au moins un ajout de 30 000 francs quelque chose comme ça. Alors, vu les montants que j'ai touchés comme salaire à l'époque là, et faire face à cela, ça m'avait mis vraiment en difficulté. Et ça n'a pas été seulement ça. Il fallait encore revoir d'autres choses. Par exemple, l'électricité, la régie des eaux. Donc, c'était devenu un peu compliqué. On avait connu la hausse des prix à tous les niveaux. Alors, ça nous avait mis un peu dans des difficultés. Donc, j'étais en train de dire quoi? Le problème aussi, notre État doit quand même nous aider sur certains points. S'il y a un équilibre au niveau économique, au niveau national, je pense que ce genre de problèmes ne pourront pas vraiment poser problème entre les bailleurs et les locataires.
Baudouin, si je comprends bien, vous n'avez pas eu de conflit avec votre bailleresse?
Non, moi avec ma bailleuse, en tout cas, il n'y avait pas eu de conflit. C'est seulement moi-même qui avais jugé bon, parce que vu la conjoncture à l'époque, je m'étais dit je ne pouvais pas vraiment tenir le coup. Donc il n'y avait pas du tout de conflit. Pourquoi? Parce qu'il y avait un contrat qui nous liait, moi et ma bailleuse.
Oui.
Et elle avait bien respecté ce contrat-là, comme c'est dit dans la loi, 3 mois de garantie. Effectivement, j'avais versé mes 3 mois de garantie. C'est qu'il avait aussi épargné le jour de quitter. Facilement, elle pouvait trouver cet argent-là et me donner, et puis je pouvais facilement me débrouiller autrement. Donc, ce qui pose problème dans ce conflit-là, c'est le non-respect du contrat. Vous allez constater, les bailleurs sont vraiment assoiffés d'argent. Comme la loi nous définit très bien, pour une maison de résidence, on demande au moins 3 mois. Mais nous constatons ici, nous allons au-delà des 3 mois.
10 mois de garantie.
10 mois de garantie, comme vous l'avez dit. Or, il y a des choses qui se passent. Et donc, chaque jour, il y a toujours des surprises. Il peut arriver que les locataires se sentent dans les capacités de payer, comme je venais de vous dire ici. Alors qu'il a besoin qu'on puisse lui restituer sa garantie pour qu'il puisse chercher où aller. Et quand il constate que son bailleur ou sa bailleresse n'est pas en mesure de lui restituer cet argent, il commence maintenant à faire les choses aussi comme il le veut. Les moments où il faut payer, il ne paye pas. Et quand vous lui posez la question, lui aussi, il s'entête de sa façon. Alors, parce qu'il sait très bien que vous êtes dans les difficultés pour lui rendre
compte. Restituer sa garantie locative.
Oui. Donc, c'est parmi les souffles des conflits. S'il y a les contrats, comme nous définissons bien ces contrats-là, c'est un contrat synalagmatique où il y a les droits et devoirs que chacun doit quand même respecter. Si déjà au préalable, ce contrat-là définit bien les conditions dans lesquelles les biens doivent être loués, comment les garantir, comment les garder, je pense que les conflits ne sera pas du tout permanent. Donc, sur ce point ici, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce débat ici. Et comme j'étais en train de vouloir encore le dire, selon la loi, il y a quand même un délai de tolérance. Si par exemple vous êtes convenu de payer chaque mois, par exemple, et donc chaque fin du mois, ou le 30 par exemple, le délai de tolérance ne peut pas excéder 7 jours. Donc en dehors les 7 jours-là, on donne la possibilité au locataire qui est dans l'incapacité de payer ses loyers, de venir voir son bailleur et lui expliquer, voilà, j'ai eu des difficultés, je pense que cette fois-ci, je peux donner avec un léger retard. Et comme ça, les bailleurs, peut-être qui avaient ce programme avec cet argent-là, ils peuvent se préparer et dire que non, comme mon ami vient de me préparer,
oui.
Par exemple, c'est l'argent qui a été prévu pour payer les études de mes enfants. À ce moment-là, je peux aussi aller demander à l'école et puis qu'on les tolère un peu jusqu'à ce moment-là.
D'accord.
Nous constatons que dans les chefs de nos locataires, par exemple, je m'excuse vraiment d'utiliser les termes, ils n'ont pas ce temps-là de venir s'expliquer.
Donc, ils ne communiquent pas.
Ils ne communiquent pas. Donc, il paye à son bon vouloir. Quand il n'a pas, il ne dit rien. Donc, il met les bailleurs dans les stress.
Devant
les bailleurs, ils sont dans les stress, comme vous le dites là.
D'accord. Merci, Baudouin. Merci, Baudouin. On va accueillir Emmanuel de Bounia. Bonjour. Bonjour, Emmanuel. Emmanuel, vous êtes là? Il n'est plus là. Bon, il va certainement nous rappeler. Maître Eric, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Jody. Baudouin il a été très pertinent, il a été très clair, il a apporté une contribution vraiment de grande facture à l'essentiel de la question que nous sommes en train d'analyser ou autour de laquelle nous sommes en train de faire le partage. Il a dit quelque chose de très important lorsqu'il a souligné qu'entre lui et sa bailleresse, il n'y avait pas de conflit parce qu'il y avait un contrat qui définissait leur rapport contractuel. Et il a atterri en disant que c'est le non-respect des clauses du contrat qui souvent dégénère en conflit. Et voilà pourquoi lorsque on veut éviter les conflits entre bailleurs et preneurs, il faut rester dans le cadre de la loi. La législation congolaise, à travers la loi du numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative aux baux à loyer non professionnel, donne le cadre général dans lequel le bail doit se passer sous réserve des dispositions contractuelles débattus, négociés entre les parties, mais qui ne peuvent pas déroger aux termes impératifs de la loi. Lorsque il doit s'agir d'une augmentation de loyer, il faut que le contrat, comme nous l'avons dit, prévoie cette possibilité et prévoie la manière dont ça doit se faire. Lorsqu'il y a un paiement lié par un cas fortuit, un cas de force majeure, le contrat, s'il prévoit la manière dont les parties peuvent se comporter, comme l'a dit Baudouin, les locataires qui a 5 jours au-delà du terme en dehors de lequel il doit payer le loyer, s'il trouve qu'il est vraiment en difficulté financière, qu'il ne s'est pas payé dans ces 5 jours-là, eh ben, quoi de plus normal que de communiquer, parce que en fait vous êtes en face d'un co-contractant, d'un partenaire, et donc faut pas se gêner de communiquer pour l'apaiser, pour éviter qu'il puisse avoir des idées par-dessus la tête.
Oui.
Et peut-être avoir des réactions épidermiques. Lorsque vous avez communiqué et que il est réceptif, vous avez en amont évité un conflit qui pouvait naître à tout moment. Les garanties locatives de 10 mois et ou même plus là, la loi que nous venons de citer a même formellement interdit cela. La loi fixe la garantie locative à 3 mois, à l'équivalent de 3 mois de loyer pour les bails résidentiels et à 6 mois pour les bails socioculturels. Cette loi même prévoit des dispositions pénales lorsque on perçoit ou on exige une garantie supérieure à 3 mois. Il y a des dispositions pénales qui sanctionnent ce comportement de 1 à 3 mois de servitude pénale et d'une amende lorsqu'il s'agit d'un bail résidentiel, et de 3 à 6 mois de servitude pénale et d'amende lorsqu'il s'agit d'un bail socioculturel. Donc c'est certainement par ignorance que les gens parfois payent ces garanties-là démesurées, parce qu'en fait il suffirait que pour dissuader, il suffirait qu'il y ait des actions pénales à charge de certains bailleurs parce qu'ayant exigé 12 mois de garantie, 10 mois de garantie, bref, au-delà de ce qui est prévu par la loi, et que les services attitrés s'en saisissent et qu'on voit que quelqu'un a été mis en taule pendant 1 mois, pendant 2 mois, où il a payé des amendes pour avoir exigé une garantie au-delà de ce que la loi prévoit, je crois que ça remettrait un peu de l'ordre dans le secteur. Le mal, c'est que l'arsenal juridique est là, mais bon, il n'est pas appliqué comme il devait l'être.
Et certains bailleurs disent, c'est ma maison, c'est à prendre ou à laisser. Donc je demande 10 mois de garantie, c'est à prendre ou à laisser. L'État vraiment, n'a pas construit ma maison, c'est ma maison et j'ai fait ce que je veux.
Tout à fait, tout à fait. Des bailleurs du genre, ça existe, et ils pensent être en droit de pouvoir les dire ou de pouvoir le faire. C'est parce que justement, ils ignorent que la loi prévoit une sanction par rapport à cette façon de faire. Et puisque les preneurs aussi qui sont devant ces difficultés ou devant ces situations ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, de tels comportements s'installent et puis prennent les dessus sur la loi. Et c'est ça le malheur. Parce qu'en fait, il aurait fallu qu'il y ait une forte vulgarisation par rapport à la loi qui prévoit la matière de bail, une forte vulgarisation, une forte sensibilisation. C'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, oui, parce qu'elle a été promulguée, mais bon, nous sommes dans une société qui est ce qu'elle est. La promulgation d'une loi au journal officiel ne suffit pas à ce que chacun puisse en...
Ça demande une vulgarisation, bien sûr, ouais.
Tout à fait.
Bien, d'accord. Maître, un instant, on va accueillir deux autres auditeurs. Comment prévenir les conflits entre bailleurs et locataires? Pour participer, appelez au 099-706-9941.
Radio Capi à la Maison de l'Entrepreneuriat de Kinshasa avec Okapi Service. Rendez-vous ce mercredi 6 décembre des 11h à 13h pour une émission spéciale avec 1000 entrepreneurs, parmi lesquels les jeunes, les femmes, les responsables d'incubateurs des start-up, les PME ainsi que les porteurs des projets innovants. Au menu, quelles sont les stratégies de création des millionnaires et milliardaires congolais? Radio Capi avec les entrepreneurs. C'est pour ce mercredi 6 décembre à la Maison de l'Entrepreneuriat, première rue Limetefuna. Retrouvez Jody Daniel Kachama et toute l'équipe d'Okapi Service pour des moments d'échange inoubliables. L'entrée est gratuite. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Et oui, comment prévenir ou gérer les conflits entre bailleurs et locataires? Malonga, vous êtes à Bandundouville. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à notre invité et à tous ceux qui nous suivent.
Bien, dites-nous à Bandundouville comment ça se passe là-bas.
Ça se passe, en tout cas, comme l'invité vient de le dire, c'est au même rythme hein, de Kinshasa et de partout en République démocratique du Congo. Moi d'abord, je fais témoigner mon cas. Je suis locataire ici, mais ailleurs aussi je suis ici bailleur. Mais ce que l'invité vient de dire là, c'est ce que je peux lui demander. Toutes ces lois qu'il vient d'évoquer là, qui peuvent le mettre en pratique et qui peuvent les exécuter, puisque la loi est là. Et puis, cette loi-là est abolie au vu et au su des législateurs, de l'exécutif, de tous ceux qui peuvent aussi faire quelque chose de cette loi. Et voir eux-mêmes une autorité et bailleur, mais c'est lui qui peut imposer une garantie de 10 mois, voire même d'une année. Ça, c'est grave. L'invité peut commencer vraiment à casser. Bon, ce que je veux dire aussi, je dis, vous voyez si cette problématique qui règne au sein de la société, c'est suite à ce que vous venez de poser à l'invité là. C'est le propriétaire de maison qui dit que c'est nous-mêmes qui sommes les propriétaires de nos maisons. La zone consiste de notre pouvoir, c'est comment est-ce que l'État peut nous imposer. D'une part, la population peut avoir raison, mais d'une autre, la loi est au-dessus de tout. Qu'est-ce que l'État, vous voyez, il y a d'autres, la campagne est là. Il y a d'autres campagnes là, il y a un candidat ou bien trois, qui nous avait promis que lorsqu'ils seront au pouvoir à la commande, ils vont commencer à construire
les maisons d'habitation.
Oui, les maisons d'habitation, les secours sociaux, c'est tout cela. Mais jusqu'à présent, nous sommes à la quatrième électorale, c'est à la quatrième centième.
Alors, quelle est la question que vous adressez à l'invité par rapport au conflit entre bailleurs et locataires?
Bon, le conflit, j'ai déjà demandé à l'invité, qui peuvent faire exécuter ces lois qu'il vient d'évoquer là. Ensuite, si la population ou bien les locataires s'imposent et restent à cette décision d'imposer le prix et de chasser les locataires comme ils veulent, qu'est-ce que l'État a prévu pour ces locataires-là ou bien pour les bailleurs? Puisque la situation restera toujours comme ça. Nous sommes vraiment témoins de tout ce qui se passe dans la ville et dans les villages. Nous sommes témoins. Elle était là. Mais la situation demeure seulement.
D'accord, merci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Merci Malonga de Bandundouville. Comment prévenir et gérer les conflits entre bailleurs et locataires? Maître, qu'est-ce que vous pouvez dire à Monsieur Malonga qui se pose la question de savoir qui peut faire respecter la loi dans ces domaines de baux à loyer?
Vraiment. Sa question n'est pas surprenante parce qu'en fait, c'est plutôt surprenant d'apprendre qu'il existe une loi qui réglemente les secteurs, mais que sur le plan des réalités, les choses se passent autrement. C'est ce qui est surprenant. En fait, les pouvoirs publics sont là pour faire respecter les lois de la République. Les pouvoirs publics sont là. Il y a les cours et tribunaux qui ont la mission traditionnelle de dire le droit en se référant aux lois qui existent. Donc, ce sont les pouvoirs publics qui doivent faire respecter ces lois. Sinon, elles tombent en désuétude, elles tombent obsolètes, c'est-à-dire qu'elles existent mais qu'elles ne s'appliquent nulle part. Ça aussi, c'est une réalité sociale, c'est un fait social réel. Les lois existent dans certains secteurs, et particulièrement dans les secteurs du bail, mais ces lois ont du mal à prendre l'ascendant sur sur les pratiques individuelles des bailleurs ou des locataires. Donc c'est l'ignorance parce que si les locataires prennent conscience qu'il existe cette loi qui les protège, si les bailleurs également prennent conscience qu'il existe cette loi qui les protège également et qui définit la limite de leurs droits et de leurs obligations, et que tout le monde avait une certaine éducation civique de pouvoir faire ce que la loi dit, d'obéir à la loi, on n'assisterait pas à ce genre de situation contre la legem de manière totalement impunie. De manière totalement impunie. C'est comme l'a dit Monsieur Malunga, vous trouvez parfois des autorités elles-mêmes qui connaissent pertinemment bien qu'il y a ces dispositions légales qui existent, mais qui vous exigent 10 mois de garantie pour leur le bail de leurs immeubles. Pourtant, ce sont des gens qui les savent, qui maîtrisent les arcanes de la loi. Et vous trouverez des bailleurs qui vous disent, bon, c'est ma maison, à prendre ou à laisser. Le mal, il est là. Mais c'est la loi de la force, en lieu place de la force des pratiques, qui devrait prendre les dessus, qui devrait prendre l'ascendant sur ces pratiques-là. Et cette loi, elle a été bien conçue, le législateur étant rationnel, parce qu'elle prévoit des sanctions. Elle prévoit des sanctions. Non-respect du préavis, c'est sanctionné. Perception d'une garantie locative au-delà de celle qui est autorisée, elle est sanctionnée. Conclusion d'un bail en l'absence d'un écrit, c'est sanctionné par dans les chefs de parti. Et moi, je crois qu'en amont, les preneurs ou locataires devraient exiger d'abord un écrit, en lieu place de se contenter d'une décharge, où je sous-signais tel, reconnais avoir perçu autant au titre des garanties locatives de tel monsieur pour ma maison 6 à tel endroit. Au-delà de cette simple décharge, il faut exiger un contrat de bail qui définit les clauses qui vont régir cette relation de bailleur à preneur. Parce que sans cela, le bailleur peut se réveiller un beau matin, il décide. Et vous êtes obligé de vous plier parce que vous n'avez pas de termes de référence. Mais malheureusement, rares sont les preneurs qui ont ces réflexes-là d'exiger un contrat de bail, parce que le bail va vous dire, bon, vous m'avez demandé un peu trop. Vous m'avez payé l'argent et puis prenez possession de la maison et puis il n'y aura pas de problème. On a du mal à recourir au contrat parce que bon, ça peut nécessiter une certaine technicité pour la rédaction. Et cette technicité peut nécessiter des honoraires dans le chef de celui qui rédige.
Oui.
Et les bailleurs peuvent dire, bon, j'ai reçu autant, faudrait-il encore que je dépense une partie pour faire rédiger et concevoir un contrat de bail. Et le locataire peut même lui-même se dire, bon, j'ai suffisamment scié sang et eau pour réunir ce loyer, cette garantie locative.
Oui.
Dois-je encore payer les services d'un
avocat
technicien à la matière pour, ouais, d'un avocat. Pour la rédaction d'un contrat de bail, j'en ai déjà fait trop. Et bon, ils prennent les risques d'évoluer, de naviguer presque à vide. Et voilà pourquoi parfois ça barde.
Maître Eric, il arrive parfois que le bailleur vous dit, bon, ma maison, c'est 10 mois de garantie. Vous payez, le locataire paye, occupe la maison, mais quand il veut sortir, il exige la restitution de la garantie locative. Les bailleurs n'est plus à mesure de le faire. Il lui dit carrément, bon, fin de la garantie. Qu'est-ce que la loi prévoit par rapport à la garantie locative?
Non, là, c'est une attitude qui n'est pas légale, parce que la loi veut que la garantie locative puisse être restituée, remboursée à l'expiration du bail. Si les bails étaient à durée déterminée, on les rembourse. S'il était à durée indéterminée et qu'il arrive à être résilié pour une ou une autre raison, la garantie locative est remboursée, parce qu'en fait, il ne peut y être déduit que des sommes qui peuvent compenser l'insolvabilité du locataire ou les dégradations du bien loué. La loi elle-même définit cela comme étant une somme d'argent versée par les preneurs, c'est-à-dire les locataires, auprès du bailleur pour prévenir son insolvabilité ou les dégradations du bien loué. Parce qu'en fait, il faut que la loi prévoit un état des lieux à faire lors de l'entrée en jouissance, l'entrée en possession du bien loué. Lorsqu'on a fait un état des lieux et que le bail cesse, on fait un autre état des lieux pour voir quelles sont les dégradations qui ne sont pas liées à l'usage normal ou à la vétusté du bien loué. S'il y a des dégradations liées à la faute du locataire, on les évalue et on fait déduction sur la garantie locative, on restitue la différence. Si les locataires avaient une insolvabilité en raison d'un mois, les bailleurs retranchent l'équivalent d'un mois en raison de cette insolvabilité et restituent la différence. Donc c'est une situation dans laquelle beaucoup de gens se retrouvent malheureusement. Mmh. Un bailleur en état d'incapacité de restituer la garantie locative et il s'est complet à imposer aux locataires de rester dans les lieux. Mais cela n'est pas normal,
oui.
Dans la mesure où ça viole le principe de l'autonomie des volontés. Vous allez obliger, vous, en tant que bailleur, à quelqu'un de continuer à rester dans votre maison pendant 10 mois, alors que lui, sa volonté, c'est d'aller ailleurs. C'est là où, justement, surgissent les conflits.
Mmh.
Mais la loi a prévu que s'il y a un conflit entre bailleur et locataire, il y a une mise en demeure de 15 jours à faire. À l'issue de l'expiration de cette mise en demeure, il y a lieu de saisir le service administratif compétent pour une tentative de conciliation préalable.
Et le service de l'habitat.
72 heures. Mmh. En principe, sous réserve de l'arrêté du ministre ayant les baux dans ses attributions à qui la loi a donné la brèche de pouvoir prendre un arrêté pour organiser ces services. Mais on suppose que c'est le service d'habitat qui doit procéder à une tentative de conciliation préalable.
Un instant, maître Eric, on va accueillir Bernard de Colosi et Safari depuis Gabarrière. Bernard, bonjour. Quelle est votre question?
Oui, bonjour. C'est Bernard depuis Colosi. Salut vraiment le professionnalisme de maître avocat, mais j'ai demandé, parce que ici c'est ultra-comique, nous sommes en train de vivre une situation inhumaine. Alors, devant quelle juridiction pouvons-nous aller lorsque nous sommes aisés de telles pratiques par des bailleurs? On peut atteindre quelle juridiction? C'est ça au moins ma question, pour que l'avocat puisse nous répondre, parce que si vraiment nous vivons la misère pour le contrat des bails.
Vous, Bernard, dites-nous concrètement, c'est quel type de misère?
Bon, ici, vraiment, lorsque vous payez la garantie, il vous est exigé toujours de payer 10 mois, et en plus de cela, lorsque peut-être vous êtes en retard de payer la maison, le bailleur s'impose pour vous chasser de la maison, et des fois, il ne vous donne pas vraiment des garanties, donc c'est tellement compliqué. On ne vous donne pas les délais, on vous chasse comme ça, et nous ne savons pas devant quelle juridiction devons-nous aller nous plaindre par rapport à de telles pratiques. Ici, à Colosi, c'est extravagant.
Merci Bernard de Colosi. Maître Eric, à vous la parole.
Merci bien, Monsieur Joudy. Merci à Bernard pour sa question. En fait, les conflits du genre sont de la compétence des tribunaux de grande instance. Les tribunaux de grande instance du ressort dans lequel se situe l'immeuble qui fait l'objet du contrat. Mais il y a lieu de souligner à l'intention de nos auditeurs que au terme de la loi qui régit le baux non professionnel, les litiges entre bailleurs et locataires ne sont recevables devant les tribunaux que s'ils ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation devant le service compétent, c'est-à-dire le service d'habitat. Et donc, si un locataire lésé ou un bailleur lésé saisissait directement le tribunal compétent, le tribunal va décréter l'irrécevabilité de cette action si elle n'a pas été soumise à la conciliation préalable. C'est de cet organe-là qui statue dans les 72 heures de sa saisine, comme nous étions en train de le dire, et qui, après avoir tenté de concilier les parties, peut déboucher soit sur un procès verbal de conciliation qui met les parties d'accord et qui clôt les litiges, soit sur un procès-verbal de non-conciliation, c'est-à-dire on constate l'échec de la conciliation, et cela ouvre la voie de la juridiction compétente en matière qui est le TGI. Et facilement, lorsqu'on n'a pas saisi ces services compétents et qu'on va directement saisir le tribunal, on sera heurté devant l'irrécevabilité et on va crier à l'injustice. Il n'y a pas de respect de droit. Non, moi, je suis dans mes droits, mais bon, le tribunal a décrété l'irrécevabilité de mon action. Donc, il faut vulgariser la loi, sensibiliser pour que les gens sachent ce que la loi prévoit et quelles sont les attitudes répréhensibles au terme de la loi et quelles sont les attitudes tolérées justement par cette loi-là. Voilà un peu, de manière éparse, ce que je peux apporter comme précision.
Bien. Comment prévenir les conflits entre bailleurs et locataires, ou comment les gérer? Voilà, un bailleur qui décide de chasser le locataire, bon, il amène peut-être quelques jeunes du quartier pour aller jeter les biens du locataire dehors, ou soit, comme on les voit dans certains quartiers populaires, il vient, il casse la porte, et puis bon, il s'en va avec, pour vous obliger à partir, coûte que coûte. Est-ce qu'on peut dire que c'est déjà une infraction, maître?
Oui, monsieur Jody. J'étais tenté de les dire, mais bon, je pensais en même temps me réserver. J'en étais moi-même victime à un certain moment. C'est une pratique que certains bailleurs... à laquelle certains bailleurs recourent. On vient enlever la porte, on vient enlever une fenêtre pour vous obliger à partir, mais c'est une pratique condamnable par la loi. C'est une infraction. C'est une infraction. La porte là que vous allez arracher ou que vous allez détruire, elle est votre, c'est vrai. Mais tant qu'il y a un occupant de cette maison, il peut vous attraire pour destruction méchante. Et s'il ne vous a pas autorisé d'accéder au lieu, il peut vous attraire pour violation de domicile. Puisque vous voulez les chasser sans avoir respecté la procédure du préavis, du délai supplémentaire, du déguerpissement par voie de jury, par voie de justice, la loi sur les baux punit également le non-respect du préavis et de la procédure elle-même s'il faut finir un contrat de bail. Donc on a ce genre de pratiques, mais pour les décourager, il faut justement les faire sanctionner, parce que la sanction a plusieurs fonctions, la peine a plusieurs fonctions. Elle a des fonctions, une fonction pardon dissuasive, hein, entre autres. Donc lorsque un bailleur qui se serait compromis de la sorte aura été sanctionné par les pouvoirs publics, puisque la loi, elle est là, elle existe, elle est claire, elle prévoit bel et bien ses sanctions. Je crois que ça peut servir d'exemple à d'autres pouvant se comporter de la même manière. Parce que là où vivent des hommes, comme nous l'avons dit, les situations ne manquent pas d'incompréhension ou de divergence de vue. Mais il faut savoir les régler en restant dans les cadres normatifs, en restant dans les cadres légaux, en restant dans les cadres quand même humains. Quand même humain. Mmh. Les locataires n'est pas un sous-homme et les bailleurs aussi n'est pas quelqu'un qu'il faut manipuler à sa guise lorsque on veut faire la mauvaise foi. Donc il faut une bonne foi des part et d'autre, il faut une connaissance des dispositions qui régissent la matière des part et d'autre, et il faut un minimum de bon sens, parce que justement le bail c'est un contrat. C'est un contrat qui met en présence deux parties qui ont chacune ses droits et ses obligations. Et quand il y a divergence de vues, il faut renégocier les clauses pour arriver à parler un même langage et éviter de s'imposer dans un sens ou dans un autre. Sinon, on brise la volonté, la libre volonté de l'autre partie prenante.
Comment prévenir les conflits entre bailleurs et locataires ou les gérer? On en parle dans Capi Service aujourd'hui. Appelez au 099-706-9941 pour participer. Racontez-nous comment ça se passe chez vous. Maître, il y a certaines histoires qu'on a entendues, par exemple, dans si les bailleurs habitent ailleurs, ça va, vous serez en paix dans la parcelle. Mais s'il habite là-bas, lui-même avec les locataires, souvent c'est compliqué. Il vous impose par exemple, il faut rentrer avant 22 heures, après 22 heures la barrière est fermée, où les toilettes sont fermées, quand les locataires a préparé un bon poulet ou une bonne viande à ces jours-là et que lui n'en a pas, il est jaloux, les enfants du locataire se marient, les siens ne se marient pas, tout ça, ça crée des jalousies et des problèmes dans la parcelle.
Vraiment, exactement, ça crée des problèmes lorsque, ça crée plus de problèmes lorsque on vit dans la même parcelle que les bailleurs, surtout lorsque celui-là, le bailleur, donc, n'est pas, je voulais pas utiliser le terme, mais faute de terme approprié, ne fait pas preuve d'une maturité, pour vivre, de manière collective. Mmh. Vous verrez un bailleur qui consomme le même courant que vous. Mais lorsque la facture arrive, il laisse la totale charge au locataire, au preneur. Il consomme l'eau de la régie des eaux, mais lui-même s'est dit, bon, Izanda Kunanga, c'est ma maison, Bofuta Maï. Et il fait des restrictions par rapport aux installations hygiéniques, par rapport à l'heure d'arrivée, aux heures de sortie. Là, c'est vraiment inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Ces genres de bailleurs doivent comprendre que lorsque vous avez mis en location un bien immobilier, vous avez hypothéqué la jouissance de ces biens. Vous avez laissé la libre et paisible jouissance de ces biens au preneur. Et donc, vous n'en gardez que le droit des propriétés, c'est vrai, c'est votre immeuble. Mais la jouissance exclusive, libre et paisible appartient désormais au preneur. Et donc, vous ne pouvez pas lui imposer de rentrer à 18h, 19h, alors qu'il peut avoir été dans ses courses personnelles. Il doit disposer de la liberté de vie, sans pour autant abuser de la liberté de vie également du bailleur. Et c'est comme qui dirait, hein, en termes simples, nous étions tous à l'école primaire, on nous disait la liberté de l'un se termine là où commence celle de l'autre. C'était pour nos institutrices nous les disaient en ces termes pour nous démontrer que à côté de nos droits, nous avons aussi des obligations. Et il y en a aussi d'autres personnes qui ont des droits à côté des nôtres. Il faut que ces droits soient mutuellement respectés dans les chefs des uns et des autres. Ce n'est pas normal qu'un tel bailleur puisse limiter la liberté vitale des preneurs. Et pour prévenir cela, tout doit être, il est beaucoup plus judicieux de prévoir un contrat par écrit qui met en exergue toutes ces clauses. Parce que figurez-vous qu'un bailleur qui a consommé le courant refuse de contribuer au paiement de la facture de la SNEL. Ça va courroucer les locataires et puis ça va dégénérer en conflit naturellement. Ça va dégénérer en conflit. Or, s'il y a un contrat au départ qui prévoit que sur autant d'appartements qui sont sur le lieu, la facture sera divisée au prorata d'occupants dont des espaces communs où il y a plusieurs immeubles, mais qui donnent en location ces différents immeubles à des destinations différentes. Vous donnez un bail à une église ou à un bar.
Oui.
Ce sont des destinations incompatibles et normalement tout cela ne se fait pas ainsi.
Bien, donc nous retenons que pour prévenir les conflits entre bailleurs locataires, il faut d'abord exiger un contrat. C'est les contrats qui sécurisent les deux parties. Et puis, quelqu'un a parlé de la communication. Je crois que c'est Baudouin. Il faut communiquer quand il y a des problèmes. Bon, voilà, où le locataire n'est pas en mesure de payer le loyer. Il est toujours important de voir son bailleur et de lui informer en avance.
Exactement. C'est ce que nous pouvons retenir d'ailleurs comme élément essentiel, pouvant nous aider à prévenir ce genre de conflits. Le contrat définit les clauses et puis la communication doit être de mise parce qu'il s'agit d'un contrat qui met en présence deux parties qui négocient justement librement ces clauses-là. Les clauses initiales ou même les avenants, s'il le faut, en cas de changement de données ou d'éléments contractuels.
Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour gérer ces conflits, maître?
Et lorsque les conflits surgissent quand même, il est conseillé de commencer par un règlement à l'amiable, un règlement à l'amiable, parler d'homme à homme, dans le respect mutuel, dans la compréhension mutuelle, savoir se faire des concessions, parce que c'est aussi mauvais dans la vie de pouvoir toujours tirer la couverture de son côté. Mmh. Il faut aussi savoir faire des concessions lorsque il y a un problème, savoir trouver un compromis. On ne trouve pas un compromis sans baisser les armes d'un côté.
Voilà, il faut savoir faire des concessions, tout ça. Un instant, maître, on va accueillir Francis de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au thème du jour?
Ok, de prime abord, je salue d'abord la qualité de l'émission ainsi que l'intervention de notre invité. J'ai une petite préoccupation que je voulais soumettre à l'intention de notre invité. Alors, si comme par hasard, un bailleur arrive à fermer les installations hygiéniques pour son locataire, que dit la loi sur le bon à loyer? Voilà un peu ma petite préoccupation.
Maître, le bailleur décide de fermer les installations hygiéniques, donc le locataire ne va pas accéder aux toilettes. Alors, il veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là.
Non, c'est une cause d'ailleurs de pour les locataires de pouvoir l'amener à résilier les contrats, parce que parmi les obligations du bailleur, c'est de mettre à la disposition du preneur les biens loués selon la destination et toutes ces dépendances. Les toilettes sont les dépendances du bien loué, et donc lorsque les bailleurs les ferment, c'est vraiment quelque chose à déplorer. C'est quelque chose à déplorer. Il faut le voir et les lui démontrer. Au cas où il persiste, je pense que ça ouvre la voie à une résiliation du contrat, parce qu'on ne peut pas admettre de vivre dans une parcelle où il y a bel et bien des toilettes, mais sans pourtant pouvoir y accéder. Et cela par le simple caprice du bailleur.
Voilà, donc il y a des bailleurs capricieux, et tout comme il y a aussi des bailleurs qui sont corrects, et bon, il y a aussi des locataires capricieux et d'autres qui se comportent bien. Nous retenons que ce qui sécurise les deux parties, c'est d'abord avoir un contrat, et savoir faire des concessions, et dialoguer, etc., communiquer, jusqu'à trouver un terrain d'entente. Merci Maître Eric Vouvou, je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Congo central. Merci d'avoir participé à cette émission. Excellente journée et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie. Tous les plaisirs étaient pour moi, et merci à nos auditeurs pour leurs contributions respectives.